Je vais parler de l'individualité comme point d'appui de la contestation du capitalisme, avec un ensemble de trois séances autour de repenser la contestation radicale entre sociologie et philosophie politique. Donc je vais d'abord faire une petite introduction générale aux trois séances. Peut-être que ça débordera peut-être un peu l'heure aussi, à cause de ça. Et après, je passerai directement au thème de la séance. Donc, d'abord, introduire ce thème général, repenser la contestation radicale entre sociologie et philosophie politique, à l'intérieur d'ailleurs du thème général de l'année à l'Université populaire de Lyon, qui est pouvoir et contestation, pouvoir au pluriel, contestation au pluriel. Alors, pour introduire à ce thème général, il faut passer par quelques notions qu'on trouve chez le philosophe Michel Foucault, que nous avions d'ailleurs introduit à l'Unipop il y a 3 ans avec Daniel Colson, puisqu'on avait fait un cours dialogique sur Michel Foucault, et notamment sur la question du pouvoir chez Michel Foucault. C'est des choses dont on a parlé il y a 3 ans, mais sans doute beaucoup d'entre vous n'y étaient pas. 3 notions sont ici intéressantes. Pouvoir, avec un au pluriel. Donc, 3 notions, pouvoir, domination, résistance, qu'on peut tirer de Michel Foucault. Notion de pouvoir, d'abord au pluriel. Ce que Michel Foucault appelle pouvoir se présente comme une forme élémentaire de la vie sociale. C'est une série de micro-pouvoirs aussi. Foucault parle de microphysique du pouvoir. Et pouvoir, alors, n'a pas un sens négatif. C'est pas forcément quand c'est lié à domination. C'est une forme élémentaire de la vie sociale. Il y a toujours du pouvoir, des pouvoirs, dans la vie quotidienne. Et donc, ça veut dire quoi, pouvoir, dans ce sens élémentaire? Ça veut dire un mode d'action de certains sur d'autres. C'est-à-dire que certains, en agissant, ont des effets sur d'autres. Un mode d'action de certains sur d'autres. Bon. Ça, c'est ces micro-pouvoirs qui existent dans la vie quotidienne. La domination, elle vient... Après, pour Foucault, la domination, c'est, dit-il, une structure globale du pouvoir. C'est une sorte de cristallisation de ces micro-pouvoirs, à un niveau plus global. Il précise même que l'entrecroisement des relations de pouvoir dessine des faits généraux de domination. L'entrecroisement des relations de pouvoir quotidiennes dessine des faits généraux de domination. Alors, dans le cadre des 3 séances, ce sont les dominations comme cristallisation de formes de pouvoir, comme cristallisation globale de formes de pouvoir, que je prendrai pour cible la logique de l'exploitation, notamment dans le capitalisme, et pas seulement. 3e notion, la notion de résistance. Foucault dit, écrit, il n'y a pas de relation de pouvoir sans résistance. Donc, dès qu'il y a pouvoir, il y a de la résistance. Dès qu'il y a un mode d'action de certains sur d'autres, il y a une résistance de ceux sur qui s'applique le pouvoir. Et Foucault ajoute que la résistance, comme le pouvoir, peut être globalisée ou partiellement globalisée. Elle est donc, comme lui, multiple et intégrable à des stratégies globales. La résistance, elle est donc, comme lui, le pouvoir, multiple et intégrable à des stratégies globales. Donc, dans ces 3 séances, je mettrai la contestation du côté des résistances et de leur globalisation, de leur possible globalisation. Donc, pouvoir, domination, résistance, pour mieux saisir ce que signifie contestation. Pourquoi contestation radicale? Je prendrai radical au sens étymologique de prendre les choses à la racine. Hein. C'est ça qui est au départ de radical, radicalité. En ajoutant quand même un petit quelque chose, c'est que les racines des problèmes sont, de la condition historique de l'humanité, sont entremêlées. Il y a plusieurs racines entremêlées, c'est ça qui fait la difficulté. Il n'y a pas une seule racine qu'on pourrait arracher, il y a différentes racines entremêlées dans la condition historique de l'humanité. Donc contestation radicale, prenant les choses à la racine, tant du côté de la critique, on verra, que de l'émancipation. Cette vision de la radicalité va nous écarter des visions manichéennes de la radicalité, où les choses sont d'un seul tenant, où il suffit de toucher un seul problème pour toucher l'ensemble. Non, non, là, il y a plusieurs racines emmêlées. À partir de là, donc, la radicalité, pour moi, a à voir avec la complication et pas avec le manichéisme et le simplisme. 2 registres autonomes du savoir seront principalement utiles dans ces analyses. Donc la sociologie critique et la philosophie politique. La sociologie critique, c'est celle qui développe une critique sociale. C'est une modalité savante de la critique sociale. Il y a des critiques sociales ordinaires qui ne sont pas nécessairement la sociologie. La sociologie critique, c'est une forme savante universitaire de des critiques sociales plus larges et plus ordinaires. Et l'idée de la critique sociale, c'est de s'efforcer d'identifier du négatif dans un ordre social et politique. C'est-à-dire, on va montrer en quoi il y a l'ensemble de l'ordre social qui est négatif, ou certains éléments de cet ordre social qui sont négatifs, c'est ça la critique sociale. Le propre de la sociologie, c'est d'essayer d'utiliser des instruments scientifiques pour effectuer cette critique sociale par rapport à la critique sociale ordinaire. La philosophie politique, elle, concerne l'organisation, le fonctionnement de la cité, et s'autorise à explorer le souhaitable. La science, elle essaye d'analyser ce qui est ou a été. La philosophie politique, elle essaye d'explorer ce qui pourrait être, ce qui pourrait être souhaitable dans le fonctionnement des cités humaines. Donc on voit bien les deux pendants, un pendant de critique avec la sociologie critique, un pendant plus exploratoire du positif avec la philosophie politique. Hein. La critique du négatif, l'exploration du positif. La sociologie critique, la philosophie politique. Alors, cette philosophie politique, autre précision, aura chez moi une visée émancipatrice. Alors, que ça veut dire émancipatrice, émancipation? C'est un terme qui a commencé à prendre de l'importance au XVIIIe siècle, au cours de ce qu'on appelle les Lumières, la pensée des Lumières. L'émancipation, c'est une sortie des tutelles, de la tutelle, comme dit Kant. C'est-à-dire, c'est une façon de sortir des dominations, de s'arracher aux dominations, dans la construction d'une autonomie individuelle et collective. Donc ces deux points d'appui, savant, sociologie critique, philosophie politique, vont, pour explorer cette dimension de l'émancipation, se connecter à d'autres éléments qui sont des engagements citoyens. Bon, c'est-à-dire que je ne fais pas appel simplement à deux disciplines savantes, la sociologie critique et la philosophie politique, mais aussi à des engagements citoyens, des engagements anticapitalistes et altermondialistes, pour ceux qui ne le savent pas, mais certains d'entre vous le savent, je suis à la fois membre d'ATAC, l'association altermondialiste, et du NPA, le parti anticapitaliste. Mais, et c'est un élément à préciser, l'analyse sociologique comme la réflexion philosophique n'est pas chez moi dépendante de mes engagements citoyens. Il y a une autonomie de la philosophie, de la réflexion de la philosophie politique, il y a une autonomie de la sociologie critique. C'est-à-dire, les savoirs sociologiques et philosophiques sont des registres autonomes par rapport à lesquels je vais faire des passages avec des engagements, mais ces registres de savoir ne sont pas dépendants des engagements. Il y a des passages dans les deux sens d'ailleurs, mais il n'y a pas de dépendance de l'un à l'autre, c'est très important. Parce qu'il y a une mauvaise manière qui s'est développée dans les années 70, où les gens adhéraient à un parti, puis pensaient avoir tout ensemble, la bonne philosophie, la bonne sociologie, la bonne politique, etc., etc., et comme si tout était dans tout et réciproquement. Là, il y a bien des registres autonomes avec des passages vis-à-vis de ces registres, c'est important. Ça permet de maintenir une tension entre, d'une part, la distanciation, et d'autre part, l'engagement. Alors, s'il s'agit de repenser la critique, la contestation radicale, il me semble qu'on doit réexaminer en profondeur ce qu'on pourrait appeler, par analogie avec le vocabulaire informatique, les logiciels de la critique sociale et de l'émancipation. Les logiciels, c'est-à-dire que c'est les façons de poser les questions, de poser les problèmes, de formuler les problèmes. Et donc, ce n'est pas simplement tel ou tel contenu, c'est la façon de formuler même les questions et les problèmes. Alors, pourquoi il faudrait revoir la façon dont on a de formuler les questions et les problèmes aujourd'hui? Ben, ça fait à peu près deux siècles que l'espérance de construction d'une société non capitaliste, émancipée, démocratique, pluraliste, échoue. Deux siècles. Parce que le combat anticapitaliste est né à peu près en France il y a deux siècles. Alors, à des moments, ça a certes débouché sur des acquis partiels, par exemple ce qu'on a appelé l'État social, c'est un acquis de ces combats, mais ce n'est pas une société non capitaliste. Acquis d'ailleurs partiels qui d'ailleurs aujourd'hui sont remis en cause, par exemple l'État social par le néolibéralisme. Mais si ça a débouché sur des acquis partiels, ce combat anticapitaliste depuis deux siècles, ça n'a pas débouché sur une transformation radicalement émancipatrice durable, je dis bien durable. Et d'ailleurs, toutes les formes ont échoué, c'est ça qui est important à noter. Les formes socialistes, communistes, les formes coopérativistes, mutualistes, les formes anarchistes, il y a des échecs plus ou moins sympathiques. Hein, la forme stalinienne est un échec antipathique, et la forme anarchiste est un échec sympathique. Mais en fait, toutes ces formes n'ont pas réussi à construire une société non capitaliste, émancipée, pluraliste, bon, depuis 2 siècles. Donc, c'est ça qui nous amène, dans ce début du XXIe siècle, à essayer de réévaluer les logiciels de la critique émancipatrice. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement se poser la question de tel ou tel contenu, mais il faut revoir la façon dont on a de formuler les problèmes et les questions. Donc il faut s'arrêter, il faut être plus radical du côté des logiciels. Aujourd'hui, c'est une erreur, je pense, les médias poussent à ça, mais les organisations politiques aussi. On dit souvent qu'il manque aux contestataires du capitalisme des contenus programmatiques. Hein, il manque du programme, il manque du contenu dans le type de société qu'on voudrait construire. Je pense que ce n'est pas la question la plus urgente. Je pense que ce qui est plus urgent, c'est les enjeux méthodologiques. Puisque ça fait 2 siècles qu'on échoue, il faut revisiter assez fortement les choses plutôt que de se contenter de rajouter de tel ou tel contenu à un moment donné, telle proposition, tel élément de programme. Bon. Donc, en fait, ces logiciels, c'est les repères qui nous permettent de base, qui nous permettent de nous orienter dans la société, bon, et dans la politique. Bon. Alors, justement, dans les années 70, moi, quand j'ai commencé à militer au lycée à la fin des années 70, quand on s'inscrivait dans la critique sociale, on suivait en gros les rails qui étaient posés par d'autres. Hein, on s'inscrivait dans les rails avec des petites différences, mais on s'inscrivait dans les mêmes rails. C'était les rails hérités des pensées socialistes du 19e et du 20e siècle. Or, aujourd'hui, mon hypothèse, hein, tout le monde ne fait pas la même hypothèse, mon hypothèse, c'est qu'il faut construire nos rails en avançant nous-mêmes aujourd'hui. Il faut reconstruire nos rails. Bon. Donc c'est ça la difficulté, c'est là où ça pose la question des logiciels. On serait dans la même situation que les hommes des Lumières au XVIIIe siècle, qui ont posé de nouveaux rails républicains et démocratiques. On serait dans la même situation que les premiers militants du mouvement ouvrier au début du XIXe siècle, qui ont posé les nouveaux rails qui nous ont servi après à avancer pendant 2 siècles. Donc, repenser la contestation radicale dans cette perspective, au début du XXIe siècle, ça apparaît, me semble-t-il, à la fois difficile et passionnant. Difficile, ben, à cause, justement, des échecs, des défaites, des impasses, hein. C'est pas la même chose si on les nomme, et on peut pas tous les mettre sur le même plan, échecs, défaites, impasses. Par exemple, quand il y a une forme qui est réprimée dans le sang comme la commune, c'est une défaite face à une forme militaire. C'est pas la même chose que l'impasse stalinienne ou l'impasse maoïste, bon, qui crée une forme autoritaire. Bon. Mais, donc, il y a ces 2 siècles d'échecs, de défaites, d'impasses. Ça donne une tonalité en fait mélancolique en l'engagement aujourd'hui, ou beaucoup de formes d'engagement contemporain. Donc c'est difficile de repenser la contestation radicale, mais c'est passionnant. Pourquoi c'est passionnant? Ben, justement parce qu'on n'est plus conduit à circuler automatiquement sur les rails qui avaient été posés par d'autres. En fait, on doit nous confronter aux joies de la découverte, de l'invention, de l'expérimentation de nouveaux rails. Donc c'est beaucoup plus intéressant de militer aujourd'hui et de faire des choses aujourd'hui qu'à la fin des années 70, alors que souvent dans les discours on entend une sorte de pessimisme, de vision assez nostalgique, où dans les années 70, dans la siège de 68, c'était vachement bien, et aujourd'hui c'est vraiment la déprime. Bon, alors que c'est beaucoup plus passionnant aujourd'hui parce qu'on n'a pas à continuer à être sur les mêmes rails, on a inventé, on a expérimenté des choses assez novatrices. Bon. C'est pour ça qu'en tenant les deux, le caractère difficile de le repenser la contestation radicale et le caractère passionnant, je dirais qu'il faut, dans ce cadre, pour reprendre une expression qui caractérise mon ami et regretté ami Daniel Ben Sadid, il faut être joyeusement mélancolique. Voilà le défi aujourd'hui, c'est d'être joyeusement mélancolique pour se confronter à la difficulté et à la passion de la tâche. Alors ça, j'ai voulu donner une petite introduction générale aux 3 séances, et donc je vais passer, repenser la question radicale, et donc je vais passer à la séance proprement dite d'aujourd'hui, qui est autour de la question de l'individualité. Bon. Donc je vais m'intéresser pour cette première séance à ce qui est devenu à gauche en France depuis un certain temps. Mon hypothèse, c'est que c'est depuis les lendemains de la guerre de 14-18, un impensé, c'est la question de l'individu. Bon. Alors, je vais essayer de livrer quelques pistes pour re-examiner les logiciels de la critique sociale et de l'émancipation dans la perspective d'une réévaluation de la question de l'individu. Je m'appuie notamment sur, pour des sources qui sont relativement pédagogiques, donc plus lisibles. On peut renvoyer à deux éléments. Sur le plan de la critique sociale, il y a un livre collectif d'attaque auquel j'ai contribué, qui a été édité en 2010. C'est le premier livre, en fait, qui critique le capitalisme à partir de l'individu et qui essaye d'aller à l'encontre d'une tendance massive. Ça s'appelle ce livre « Le capitalisme contre les individus ». Qui a été publié aux éditions textuelles. Et sur le plan de la philosophie politique, c'est un petit livre que j'ai sorti en début d'année, en 2011, toujours c'est textuel, Béaba philosophique de la politique, donc c'est bien cette idée de logiciel, pour ceux qui ne sont ni énarques, ni politiciens, ni patrons, ni journalistes, ce qui fait beaucoup de monde, sans doute beaucoup d'entre vous. Trois termes donc seront au cœur de cette séance, individualité, capitalisme et émancipation. Alors émancipation, j'ai déjà défini, hein, 18e siècle, je vais prendre les deux autres. Individualité, c'est quoi? C'est la dimension singulière, unique, on dira incommensurable, incomparable de chaque individu, hein, son individualité. Bon. Alors, cette individualité, je vais lui donner une approche sociologique. Que je vais appeler relationaliste. Alors, relationaliste, pourquoi de relations sociales. C'est-à-dire, les individus ne sont pas saisis comme séparés les uns des autres de manière isolée, comme il y a certaines approches de l'individu qui sont faites, mais les individus sont toujours saisis dans le cours de relations sociales, à travers des relations sociales. Donc, une approche relationaliste de l'individualité. Dans cette perspective, la singularité de chaque individu, son individualité, est fabriquée avec des relations sociales. Justement, la matière de la singularité de chacun, c'est les relations sociales, dans cette perspective. Donc, on pourrait dire que notre unicité à chacun serait constituée de nos relations avec les autres. Bon. Donc, il n'y a pas opposition entre notre singularité, notre individualité et les relations avec les autres, puisque c'est le matériau principal de la fabrication de cette singularité. Le capitalisme, deuxième terme, c'est la forme dominante, pas exclusive, parce que c'est pas la seule forme qui existe dans nos sociétés, mais c'est la forme dominante d'organisation des sociétés contemporaines. Je donnerai une définition synthétique que je vais répéter. Capitalisme, c'est une dynamique d'accumulation illimitée du capital, un mouvement pour accumuler toujours plus de manière illimitée du capital, une dynamique d'accumulation illimitée du capital, alimentée par une logique de profit, générée par deux choses, l'exploitation du travail et de la nature. L'exploitation de la nature avait souvent été oubliée par les marxistes pour définir le capitalisme, or c'est quelque chose qui est présent chez Marx. Bon. Une logique de profit générée par l'exploitation du travail et de la nature par le capital, basée sur la propriété privée des moyens de production, d'échange et de communication, et développant, en dernier plan, la marchandisation du monde, c'est-à-dire que pour générer ce profit, il faut que de plus en plus de choses dans nos vies, les humains et toute une série d'éléments qui n'étaient pas avant des marchandises deviennent des marchandises qui se vendent donc sur un marché qui permettent de faire du profit. Voilà une définition, disons, synthétique du capitalisme. Alors, mon exposé aura trois temps principaux, inégaux en volume. Un temps court qui montrera que l'individu est malmené, oublié à gauche. Deuxièmement, quelques pistes, ça sera plus long, pour une critique du capitalisme qui s'appuiera sur l'individualité. Alors on verra Marx notamment, et puis on verra un sociologue contemporain, Robert Castel. Et puis troisième temps, des pistes exploratoires quant à ce que pourrait être une politique d'émancipation. Alors ici, on va croiser des choses assez différentes. On va croiser le rap, un dandy, Oscar Wilde, et un philosophe, Emmanuel Levinas. Alors, le premier point qui sera le plus court, un individu malmené et oublié à gauche. Donc, je pars du constat que la figure de l'individu a été plutôt marginalisée à gauche, et j'essaierai donc de la réévaluer dans la critique du capitalisme et dans la perspective d'une émancipation post-capitaliste. Alors, aujourd'hui, il y a souvent des prétentions, des préventions dans la prise en compte de l'individu à gauche en général, et en particulier, particulièrement dans les gauches critiques, où c'est encore parfois plus important. Alors on va entendre des phrases du type « c'est la faute à l'individualisme », « le néolibéralisme, c'est la promotion de l'individu », « la gauche, c'est avant tout le sens du collectif », « l'individualisme aujourd'hui fait perdre le sens du collectif », « Il faut opposer la solidarité à l'individualisme, etc., etc. C'est des enfants, c'est des phrases qu'on entend souvent. Et si vous allez du côté des militants, des sympathisants de gauche, de différentes couleurs de la gauche, hein, du Parti socialiste jusqu'à lutte ouvrière, on peut dire que là il y a un élément commun très fort, une tendance commune très forte. Et on va dans les mouvements sociaux aussi, dans les syndicats. Et on va entendre ça dans les échanges informels ou dans les réunions publiques. Par exemple, toutes ces réunions publiques qu'il y a eu autour de, avant et pendant les mobilisations sur les retraites l'an dernier, il y avait beaucoup de, on ne pouvait pas faire une réunion sans avoir ce type de discours, hein, c'est la faute à l'individualisme, etc., etc. Or, ce type de vision apparaît trop unilatérale. Pourquoi ? Parce qu'il laisse entendre que la droite et le capitalisme auraient une sorte de monopole de l'individu. En fait, l'individu, ça appartiendrait à la droite et au capitalisme, et alors la gauche, ça serait le collectif. Et donc, si on est de gauche, il faudrait prendre le parti du collectif contre l'individu. Voilà un peu ce schéma qui est souvent généré par cette vision assez prégnante à gauche. C'est ce que j'appelle, moi, l'hégémonie du logiciel collectiviste à gauche. Alors, comme j'ai dit qu'il fallait réexaminer les logiciels, donc voilà un premier logiciel qui pose problème, le logiciel collectiviste, qui met au cœur le collectif et qui fait que, si on est de gauche, eh ben, on défend le collectif contre l'individu. Bon. Et on trouve d'ailleurs des traces aussi chez des penseurs critiques actuels. Il y a tout un retour de la pensée du commun, du collectif, même des fois du communisme, du lien social. Et si on est exclusivement sur le collectif, sur le commun ou sur le lien social, on oublie en général la place de l'individu. Alors, s'il y a cette prégnance des formes du logiciel collectiviste, des réactions collectivistes et anti-individualistes, c'est qu'il y a des bonnes raisons aussi. Bon, il y a des bonnes raisons conjoncturelles, il y a des bonnes raisons historiques et conjoncturelles. Les contre-réformes néolibérales qui ont déferlé sur le monde à partir du début des années 80 ont justement beaucoup utilisé la figure de l'individu. Individualisation des salaires, flexibilité, mobilité, etc. L'individu a été beaucoup utilisé par ce cours néolibéral du capitalisme à partir du début des années 80. Contre l'État social, contre les services publics, contre les solidarités constituées par l'action syndicale, le syndicalisme. Et puis dans l'entreprise même, ce que deux sociologues, Luc Boltanski et F. Chiapello, ont appelé le nouvel esprit du capitalisme, dans l'entreprise même, le management va essayer de mettre en avant l'implication personnelle dans l'entreprise et va aussi constituer des dispositifs de mise en concurrence des individus, là où régnait davantage des formes de coopération antérieurement. Bon. Donc, cette figure de l'individu est fortement agitée par le capitalisme aujourd'hui, et on peut comprendre, disons, la résistance du logiciel collectiviste. Il y a aussi des raisons historiques qui rendent compte de la prégnance de ce logiciel collectiviste à gauche. En fait, c'est après la guerre de 14-18 que le thème de l'individu, en tout cas en France, va s'effacer progressivement de l'espace des questions centrales à gauche et dans les mouvements sociaux. C'est seulement après la guerre de 14-18. Donc, en fait, on a plus d'un siècle avant, où la question de l'individu est très importante, bon, dans les gauches et dans les mouvements sociaux. Bon. Et c'est à partir de 14-18 que les thèmes collectivistes vont finir par dominer largement. La jambe individualiste de la gauche va se trouver marginalisée par rapport à sa jambe collectiviste, sauf dans les courants libertaires et anarchistes, qui sont presque les seuls à avoir préservé, disons, l'importance de la thématique de l'individu dans le combat social. Pourtant, avant 14-18, il y a de multiples courants qui sont à redécouvrir aujourd'hui et qui vont non pas opposer la question sociale et la question de l'individu, mais vont associer la question sociale et la question de l'individu. Les penseurs anarchistes, d'abord, Proudhon, Bakounine, Kropotkine, etc., vont mettre l'accent sur l'autonomie individuelle face au capitalisme et à l'État. Bon. Les premiers militants syndicalistes révolutionnaires, ceux qui créent les bourses du travail et ceux qui vont créer la première CGT, la CGT au moins jusqu'à la guerre de 14. Il faut savoir que la CGT à l'époque est animée notamment par des militants libertaires, c'est ce qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire ou encore l'anarcho-syndicalisme. Bon. Ben, ces militants ouvriers, Pelloutier pour les bourses du travail, Pouget pour la CGT, eux vont mettre aussi fortement l'accent sur la promotion de l'autonomie individuelle au sein de relations de solidarité, de réciprocité, contre la double tyrannie, qui est la tyrannie du capitalisme et la tyrannie de l'État. Je prends un exemple, Émile Pouget, militant anarchiste au départ, mais qui va devenir secrétaire adjoint de la CGT, donc un des principaux dirigeants nationaux de la CGT à l'époque. Il écrit une brochure en 1910 qui s'appelle « L'action directe ». Et voilà ce qu'écrit Pouget. Et c'est en cette gymnastique d'imprégnation en l'individu de sa valeur propre, et d'exaltation de cette valeur, que réside la puissance féconde de l'action directe. Et Pouget ajoute « exaltation de l'individu ». Alors on voit mal là un dirigeant aujourd'hui de la CGT, mais aussi de la CFDT, de FO, etc., ou même d'un parti de gauche, dire « exaltation de l'individu ». On voit bien qu'il s'est passé quelque chose. Et pourtant là, on est au cœur du mouvement syndical, hein, du mouvement social. Mais les anarchistes, les syndicalistes révolutionnaires ne sont pas les seuls à mettre l'individu au cœur. Le socialisme républicain de Jean Jaurès met aussi l'individualisme et l'individu au cœur. Il va l'associer, bien sûr, à des thèmes sociaux, notamment le thème de la propriété sociale des moyens de production, d'échange, qui est un élément important, mais la propriété sociale des moyens de production et d'échange est un moyen, et la fin, c'est l'individu. Voilà comment, dans un texte qui s'appelle « Socialisme et liberté » de 1898, Jaurès définit le socialisme. « Le socialisme est l'individualisme logique et complet, il continue en l'agrandissant l'individualisme révolutionnaire. » Le socialisme et l'individualisme logique et complet, continue en l'agrandissant l'individualisme révolutionnaire. Et on voit bien aussi l'idée que dire que le socialisme et l'individualisme, ça ne va pas de soi aujourd'hui, c'est bien passé quelque chose. Bon. Il continue et en l'agrandissant l'individualisme révolutionnaire, l'individualisme révolutionnaire, c'est l'individualisme de la Révolution française. Il faut dire que quand le mouvement ouvrier se développe à partir du 1820-1830, on n'est pas très loin de 1789. On est, par rapport à la Révolution française, moins loin qu'aujourd'hui, nous, de mai 68. Donc on a une forte proximité avec ce qui s'est passé avec la Révolution française. Et qu'est-ce que fait advenir la Révolution française? L'idée du citoyen individuel et de la raison individuelle, bon, contre la vision, disons, des sociétés d'ancien régime, des visions traditionnelles. La Révolution française, elle fait émerger, comme la Révolution américaine d'ailleurs, l'individu. Bon, l'individu, la raison individuelle, le citoyen individuel. Et donc on est très proche encore, et le mouvement ouvrier, quand il naît, il hérite de cet élément de la Révolution française. Bon. C'est pour ça que Jaurès dit, il continue en l'agrandissant, l'individualisme révolutionnaire. Alors, je l'ai dit, il y a une rupture, il faudrait analyser les causes. J'ai quelques hypothèses, mais j'ai pas une analyse historique de pourquoi ça a basculé après la guerre de 14-18, mais en tout cas ça a basculé peu à peu. Ce thème de l'individu, qui est à parité d'une certaine façon avec le thème de la solidarité, va devenir marginalisé, et les thèmes collectifs vont devenir centraux. L'individu va ressurgir dans les années 70, dans le sillage de 68, notamment à travers des luttes féministes, des luttes des homosexuels ou des luttes écologistes, qui vont redonner une place plus importante à l'individualité et à l'individu. Encore aujourd'hui, si on pense aux formes écologistes, songeons au thème dans la décroissance de la simplicité volontaire. La simplicité volontaire, c'est une façon de mettre l'individu dans le changement social. Bon. C'est dans le sens d'une telle réévaluation de l'individu, en rapport avec des liens de solidarité et de coopération, que je vais plaider. Hein, solidarité de coopération que l'anarchiste Kropotkine appelle l'entraide, hein, dans son grand livre L'entraide, qui est une analyse du rapport entre solidarité et puis la place de l'individu. Donc, premier constat, c'est le fait que l'individu a été oublié, malmené à gauche. Bon. Et donc, il y a un problème, justement, de réévaluation de l'individu. Deuxième chose, il faut voir comment on peut fournir des pistes, de nouveaux logiciels, pour critiquer le capitalisme en réévaluant cette place de l'individu. Alors, ça va nous amener à présenter deux auteurs. Le premier, c'est un autre auteur individualiste dont je n'ai pas parlé, qui a marqué le 19e, c'est Marx. Parce qu'on va découvrir que Marx est un auteur individualiste. Bon. Contrairement à ce que souvent on dit les marxistes. Bon. Et puis, on parlera d'un sociologue contemporain qui s'appelle Robert Castel, de manière plus courte. Alors, premier élément, critique du capitalisme et individu, donc un Marx méconnu. L'individualité est très présente chez Marx, alors que les marxistes ont souvent donné une lecture unilatéralement collectiviste de Marx. Alors, voyons quelques éléments du traitement de l'individu par Marx. On saisit toute une série de traces, que ce soit dans les textes de jeunesse ou dans des textes beaucoup plus tardifs. Bon, ce n'est pas une question de jeunesse par rapport à l'ancienneté. Alors, l'individu est appréhendé de manière relationnelle, relationaliste, comme j'ai dit au début. c'est-à-dire l'individu est toujours situé dans des relations sociales, dans ce que Marx appelle des rapports sociaux. C'est une vision relationnelle de l'individu. Dans les manuscrits de 1844, c'est un des textes de jeunesse importants de Marx, Marx va s'opposer à ce qu'il appelle le morcellement de l'homme dans l'univers marchand, c'est-à-dire donc un monde tendanciellement dominé par la propriété privée et l'argent. Et face à ça, face à ce monde tendanciellement dominé par la propriété privée capitaliste et l'argent, Marx a en tête l'émancipation de l'individualité à travers deux mots qu'il utilisait alternativement et qu'il utilisera d'ailleurs encore à la fin de sa vie. C'est soit l'homme total ou l'homme complet. Voilà la figure idéale de l'individu pour Marx, l'homme total ou l'homme complet. On y reviendra parce qu'on verra qu'il y a de fortes résonances entre cette notion et puis Oscar Wilde, le dandysme d'Oscar Wilde, et puis les analyses de la fin de la vie de Michel Foucault. Cet homme total, cet homme complet, c'est quoi? C'est les développements des capacités, des sens de chaque individu. Je cite Marx. Chacun de ses rapports humains avec le monde, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser, contempler, vouloir, agir, aimer, bref, tous les actes de son individualité. En fait, on découvre que Marx est un penseur sensualiste, alors que les marxistes nous avaient expliqué que c'était un penseur chiant de la discipline, du collectif, etc. Alors que le problème de Marx, c'est comment développer les sens et les capacités de chaque individu. Or, et c'est là où il y a critique du capitalisme, le règne de la propriété privée, la toute-puissance corrélative de l'argent, impose la mesure unique de la marchandise à l'ensemble de nos activités. Peu à peu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait marchandisation, donc peu à peu, l'ensemble des activités vont être mesurées qu'à travers ce que ça coûte comme argent et donc comme leur qualité de marchandise. Et Marx le dit, et donc ça réduit, disons, les capacités créatrices et les sens de chaque être individuel. Marx écrit « À la place de tous les sens physiques et intellectuels est apparue l'aliénation pure et simple des sens, le sens de l'avoir. À la place de tous les sens physiques et intellectuels est apparue l'aliénation pure et simple des sens, le sens de l'avoir. » Ici, Marx oppose implicitement l'être à l'avoir et on verra que c'est une notion que va réutiliser Oscar Wilde, bon, quand il va aussi critiquer le capitalisme. Alors, dans le même texte, Marx avance une critique analogue de ce qu'il appelle le communisme vulgaire. Alors, à l'époque, il y a des auteurs qui se disent communistes, qui défendent certaines conceptions du communisme. Il n'y a pas d'expérience historique du communisme, mais il y a des discours sur le communisme. Et Marx va attaquer une catégorie de ces discours qu'il appelle communisme vulgaire. Alors, c'est quoi ce communisme vulgaire? C'est une version égalitariste et collectiviste du communisme, qui ressemble beaucoup au discours qu'on a entendu du communisme réalisé, pas de sa pratique, parce que dans la pratique il était très peu égalitariste, mais dans les discours qui étaient tenus. Qu'est-ce que fait ce communisme vulgaire? Il promeut le nivellement. C'est le nivellement, le communisme vulgaire, nous dit Marx. En niant partout la personnalité de l'homme. Il nivelle l'ensemble des personnes et donc il nie la personnalité de chaque individu. Il cherche alors à ramener tout à un même niveau, Denis Marx, ramener tout à un même niveau. Donc tout le monde est au même plan, tout le monde est ramené au même niveau. Bon. Or, le problème du communisme pour Marx, c'est pas ça, c'est de créer les conditions du déploiement des singularités individuelles. C'est les conditions sociales qui sont offertes pour chacun, pour que chacun développe son unicité, sa singularité. Et donc c'est pas pour mettre tout le monde au même niveau, c'est pas pour aplatir tout le monde sur un même plan. Bon. C'est pas pour faire que tout le monde se ressemble, puisque c'est au contraire la possibilité que chacun puisse être différent. Bon. Et donc, c'est ce qu'elles ont d'irréductibles, les singularités, d'incommensurables les unes par rapport aux autres que Marx veut développer en créant certaines conditions sociales. Ce thème de l'homme total ou de l'homme complet, Marx l'abandonne pas en développant ses analyses économiques, parce que dans son livre principal, son œuvre principale, beaucoup plus tardivement, 1867, le livre 1 du Capital, le seul livre du Capital qui est publié de son vivant, Marx va analyser par exemple l'individu qui est maltraité par le capitalisme, dans l'usine capitaliste, par la division du travail capitaliste, par la division du travail manuel et intellectuel, et après par l'ultra-spécialisation du travail. C'est ce que Marx appelle l'individu borné et incomplet, justement. Dans l'usine capitaliste, l'individu, il est réduit de plus en plus à un type d'opération, de plus en plus borné, et ça le rend de plus en plus incomplet. Il faut songer ici aux scènes des temps modernes de Charlie Chaplin sur cette façon de spécialiser l'individu. Bon. Et donc là aussi, il n'y a pas que la marchandise qui aplatit l'individualité, il y a l'ultra-spécialisation du travail dans le capitalisme et dans l'usine capitaliste, dans l'entreprise capitaliste. Et donc on voit à travers ces éléments, comment dire, qu'on pourrait saisir chez Marx une double critique libertaire du capitalisme et du communisme. Donc Marx est un critique libertaire, proche des anarchistes de ce point de vue, à la fois du capitalisme et du communisme. Du communisme tel qu'on l'a souvent entendu. Au nom de la singularité individuelle. Alors à partir de là, on peut reformuler une critique du capitalisme, à mon sens, contemporain, à travers une contradiction qui est en germe chez Marx. Il ne l'a pas formulée telle quelle, c'est moi qui ai essayé de la formuler. Une contradiction du capitalisme qui est beaucoup plus importante dans le capitalisme contemporain, qui a peu intéressé des marxistes jusqu'à présent. C'est ce que j'appelle la contradiction capital-individualité. Alors on analyse souvent le capitalisme à travers la contradiction entre le capital et le travail, et on peut aussi analyser, c'est une contradiction qui existe dans le capitalisme, on peut aussi analyser le capitalisme à travers une contradiction entre le capital et l'individualité de chacun. Qu'est-ce que ça serait cette contradiction capital-individualité? Le capitalisme contribuerait à nourrir l'individualisme contemporain, c'est-à-dire le fait que dans nos sociétés contemporaines, l'individu est de plus en plus valorisé par rapport aux sociétés traditionnelles. Donc le capitalisme contribue à nourrir cet individualisme contemporain, ce n'est pas le seul qui fait ça. L'émancipation des femmes, les transformations de la famille patriarcale, etc., ont contribué à individualiser aussi les sociétés contemporaines, donc à créer des bases d'une plus grande autonomie des individus. Donc le capitalisme va contribuer à nourrir l'individualisme contemporain, donc il va stimuler d'un côté les désirs d'épanouissement personnel des personnes en fait, mais il va dire même, il va exciter les désirs d'épanouissement et de reconnaissance personnelle des personnes, à travers sa publicité, dans l'entreprise, dans la consommation. Mais en même temps, il stimule d'un côté les désirs d'épanouissement personnel, les désirs de réalisation de soi, mais en même temps, il va les limiter et les tronquer, ces désirs. Pourquoi? Parce que il ne retient que les désirs d'épanouissement personnel qui peuvent créer du profit, qui peuvent devenir une marchandise et peuvent réaliser du profit. Donc, en fait, le capitalisme stimule les désirs d'épanouissement des personnes, les désirs de réalisation de soi, de reconnaissance personnelle, mais en même temps, il ne peut que très partiellement les satisfaire dans sa logique de profit et de division du travail analysée par Marx antérieurement. Et donc, on pourrait dire que les désirs d'individualité frustrés, les individualités blessées par le capitalisme, pourraient être des fossoyeurs potentiels du capitalisme. Fossoyeur, c'est une phrase qu'utilisent Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste de 1848. Marx et Engels, donc, à travers la contradiction capital-travail, le développement du salariat fait que le capitalisme, en même temps, produit potentiellement ses propres fossoyeurs, c'est-à-dire les gens qui pourraient remettre en cause le capitalisme, les salariés. Bon. Eh bien, on pourrait dire que les individualités blessées dans le capitalisme sont aussi des fossoyeurs potentiels du capitalisme. Susceptibles d'être politisés. Pourquoi? Parce qu'une contradiction du capitalisme, pour Marx, ça livre une série de possibilités, mais ça ne peut exister réellement que si c'est la matière à une action politique. La contradiction capital-travail ne peut devenir pertinente que s'il y a des syndicats, des partis, etc., qui mènent ce travail politique pour organiser le salariat. Bon. Contre le capitalisme. Mais ce n'est pas spontanément que ça va se faire. Il faut qu'il y ait un travail politique. Pour la contradiction capital-individualité, c'est pareil. Il faudrait qu'il y ait une action politique, un langage politique, qui se saisisse des intimités blessées pour en faire un élément. Mon hypothèse, c'est que, sans doute aujourd'hui, les intimités blessées de nos contemporains sont sans doute une des sources potentielles d'anticapitalisme les plus importantes. Les plus importantes. Et donc, c'est comme s'il y avait des potentialités anticapitalistes au cœur des forts intérieurs de nos contemporains, mais un des grands problèmes, et je reviendrai là-dessus, c'est que les anticapitalistes ne le savent pas. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas politisé. Et donc c'est une source potentielle d'anticapitalistes qui n'est pas saisie par les anticapitalistes. Voyons toutes les difficultés même qu'ont eu les syndicats pour se saisir des questions de souffrance au travail, de suicide, etc. C'est très difficile. Dès qu'il s'agit de saisir des questions d'intimité, on ne sait plus quoi faire. On sait politiser les questions sociales, mais on ne sait pas politiser les questions de l'individualité. Donc on fait appel à des psychologues, des médecins, etc., mais on ne sait pas en faire une matière politique. Bon. Voilà pour le premier élément. Donc on a vu qu'il n'y avait pas que les anarchistes et Jaurès qui faisait de l'individualité un élément central, Marx aussi, bon, à la différence des marxistes. Bon. Une deuxième angle pour saisir en quoi l'individualité pourrait être un angle intéressant de critique du capitalisme, c'est un sociologue contemporain qui apporte, disons, des éléments complémentaires parce qu'il ne se situe pas exactement dans la même tradition, donc c'est Robert Castel, est-ce qu'il appelle les supports sociaux de l'autonomie individuelle? Robert Castel donc, est un sociologue contemporain, toujours vivant. Il se situe dans une autre tradition qui est un des fondateurs de la sociologie universitaire française, qui est Émile Durkheim, qui est aussi un grand républicain et un fondateur de la sociologie qui est différent de la filière, disons, marxiste. Alors Castel, notamment dans un livre très intéressant de 2001, une série d'entretiens qui s'appelle « Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi ». Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi. Il va montrer qu'il y a un lien entre les droits sociaux et l'autonomie de chaque individu. Que l'individu contemporain, pour construire une autonomie, a eu besoin de droits sociaux. Bon. Que l'État social a été un facteur d'individualisation. Bon. Souvent, on va opposer l'État et l'État social à l'individu, et là, Castel montre qu'il y a au contraire une corrélation entre le développement de l'autonomie individuelle et l'État social. Alors, il faut reprendre quelques éléments de son analyse historique. D'abord, il faut un point de principe. Ça suppose de rompre avec la conception libérale et néolibérale de l'individu. La conception libérale et néolibérale de l'individu, c'est que l'individu existe spontanément, de soi, naturellement. Donc il est autonome naturellement. Et puis après, il est menacé par l'État, des institutions, etc. Or, pour Castel, l'individu n'existe pas spontanément. Son autonomie n'existe pas spontanément. Castel dit, pour exister comme individu, il faut avoir des supports. Pour exister comme individu, il faut avoir des supports. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur quelque chose pour être autonome. Bon. Il faut des supports d'interdépendance, nous dit Castel. C'est-à-dire qu'il y a des conditions sociales à ce qu'il y ait une autonomie de chaque individu. Alors, ces supports de l'individualité moderne, ils ont connu deux phases. Il y a une première phase, c'est la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Le support principal d'autonomie, c'était la propriété privée. C'est-à-dire que, et donc, c'était, il n'y avait que les propriétaires qui n'y avaient accès à cette autonomie. Non. Pourquoi la propriété privée? Parce que le fait d'avoir pas mal de propriétés privées permettait à chaque individu de se construire une vie autonome indépendamment des aléas de la maladie, de la vieillesse et du marché du travail. Ils étaient propriétaires, donc ils pouvaient voir venir, ils pouvaient se construire une vie autonome. Bon. Or, justement, il y a eu un moment où, à travers des luttes sociales et politiques, se sont développés les droits sociaux, la sécurité sociale, les retraites, les formes de contrats de travail statutaires, etc. Bon. Et ces différents droits sociaux, c'est ça qui ont élargi les possibilités d'autonomie individuelle, non pas simplement au seul propriétaire, mais à presque l'ensemble des individus, bon, à la masse des individus. Donc, l'État social, les droits sociaux, c'était, nous dit Castel, la possibilité d'être dans la sécurité sans être propriétaire. La possibilité d'être dans la sécurité sans être propriétaire. Se construire une vie autonome, indépendamment, justement, des aléas de la maladie, de la vieillesse, des aléas du marché du travail. Donc, pour construire une vie familiale et personnelle autonome. Et donc, en fait, les droits sociaux et l'État social ont été une condition de l'autonomie individuelle moderne. Voilà ce que dit Castel. Et c'est là qu'on arrive au troisième temps de l'analyse, c'est le paradoxe aujourd'hui. C'est que les contre-réformes néolibérales depuis les années 80 vont justement ébranler ces conditions de l'autonomie individuelle moderne. C'est-à-dire qu'ils vont remettre en cause cette autonomie individuelle moderne d'une certaine façon, au nom d'une certaine vision de l'individu, au nom d'une vision néolibérale de l'individu, un individu qui est dans la logique de concurrence. Bon. Mais en ce faisant, on va attaquer, par la flexibilité, la mobilité, les lois du marché, etc., on va attaquer justement la sécurité sociale, le contrat de travail stable, les systèmes de retraite, etc. Donc justement, ces droits, ces supports sociaux qui permettaient à l'individu d'être autonome. Et donc on va instabiliser beaucoup plus d'individus qui vont ne plus pouvoir être aussi autonomes qu'avant. Donc le néolibéralisme est en fait une mise en cause de l'autonomie individuelle. Or souvent, on critique le néolibéralisme uniquement sous la condition du collectif. Bon, toujours avec ce logiciel collectiviste qui est très prégnant à gauche dans les syndicats, dans les mouvements sociaux, alors qu'il faudrait aussi mettre en cause le néolibéralisme sous l'angle de ces conditions de l'autonomie individuelle, au sens où il ne faudrait pas opposer la solidarité à l'autonomie individuelle, puisque la solidarité au sens des droits sociaux, c'est ce qui permet à chacun d'individu d'être autonome, justement. Pour mieux comprendre ce paradoxe, on peut prendre deux exemples. Justement, le projet de contrat première embauche qui a été abandonné en 2006 grâce à une série de fortes mobilisations, notamment des jeunes. Le propre de ce contrat, c'est qu'il pouvait être rompu à chaque instant. C'est-à-dire, il accroissait fortement pour une population, les jeunes, l'instabilité. Et donc cette instabilité rendait difficile, encore un plus impossible, un projet personnel de vie. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait, avec ce type de contrat, on ne pouvait pas avoir des prêts bancaires, avoir des garanties pour louer un appartement, etc. Donc se construire une vie autonome dans le temps, à travers l'accroissement de l'instabilité. Donc la façon dont ces réformes néolibérales, qui se font au nom de l'individu concurrentiel, fragilisent l'autonomie de chaque individu en même temps. Ben, on pourrait dire des choses similaires de la contre-réforme de Nicolas Sarkozy sur les retraites, puisque en mettant en cause les retraites, en réduisant les possibilités des retraites, on met en cause des supports sociaux qui permettaient à l'individu d'être autonome, et notamment aussi les plages de temps où il était plus autonome, c'est-à-dire les temps de retraite qui réduit par rapport au temps de travail. Donc on pourrait dire qu'il y a deux façons de mettre en avant l'individu. La manière néolibérale qui insiste sur la concurrence, la loi du marché, et puis une manière progressiste de se poser la question de l'individu, c'est-à-dire poser les conditions sociales de l'autonomie de chaque individu. Et donc dans ce cas-là, il ne faut pas promouvoir la solidarité contre les aspirations individuelles, mais il faut articuler solidarité et autonomie individuelle. C'est ce qu'ont bien senti un collectif d'artistes et de graphistes qui se sont exprimés pendant le mouvement des retraites de 2010, de l'an dernier, et qui étaient complètement à l'opposé des slogans de la plupart des syndicats, des partis, etc. La plupart des slogans des partis, des syndicats, etc., dans ce mouvement des retraites, étaient des slogans collectifs, autour de la solidarité du collectif, etc. Et il y a un collectif d'artistes, ça a été diffusé d'ailleurs d'abord par le journal L'Humanité, un collectif d'artistes de la région parisienne qui s'appelle Ne pas plier, et qui ont lancé ce slogan et cette forme graphique « Je lutte des classes ».« Je lutte des classes ». Alors, c'est très intéressant parce que ce slogan a eu un certain succès dans les manifestations. Évidemment, il était complètement à l'écart des slogans habituels de manifestations. Pourquoi ? Parce qu'il y avait bien l'idée d'un combat social, d'une lutte des classes, hein, et en même temps, c'est « je » qui est impliqué. Donc, la subjectivité individuelle était impliquée. Donc, là, on voit une avance des artistes par rapport, disons, aux formes politiques, syndicales, etc., qui sont en retard par rapport à ça. Alors, premier temps, l'individu malmené, oublié à gauche. Deuxième temps, la façon dont on peut s'appuyer sur l'individualité pour critiquer le capitalisme avec l'exemple de Marx et de Castel. On pourrait en prendre d'autres, hein. Je prends des éléments simplement. Troisième temps, c'est autour de l'émancipation, c'est ma troisième possibilité. C'est des pistes exploratoires pour une politique de l'émancipation. Alors, il y aura trois petites dimensions là-dedans. On va voir comment il faut repenser les langages politiques. Donc, j'ai dit, il faut politiser cette question de l'intimité. Donc, il faut changer, trouver un langage. On va voir comment, si les organisations politiques, les syndicats, etc., n'ont pas le langage, ce langage est travaillé dans d'autres formes culturelles, par exemple le rap. Bon. Donc, ça existe, ce langage. Il ne faut pas penser qu'il n'existe pas. Il existe. Il y a des gens qui l'expérimentent, mais dans d'autres sphères que la sphère proprement syndicale ou politique. Deuxièmement, je me poserai la question du rapport entre les biens communs, la solidarité et puis la singularité individuelle en m'appuyant sur un philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas. Et après, je prolongerai sur les conditions collectives de la construction de la singularité de soi et on verra là ce lien entre Marx et Oscar Wilde. Alors, comment on peut penser d'ailleurs que Marx est un auteur dandy d'une certaine façon. Premier élément, repenser les langages politiques, la piste du rap. Donc, je l'ai dit, les langages politiques à gauche ont gardé une certaine inertie collectiviste et rendent difficile de politiser de manière anticapitaliste et altermondialiste justement les blessures de l'individualité. Bon. Souffrance au travail, suicide, etc. Ou dans le rapport à la consommation de masse, les frustrations liées à la consommation de masse. Et donc, il faudrait essayer d'aller chercher là où il y a de l'invention du langage qui pose ces questions, qui pourrait associer, disons, à la fois les contraintes sociales, l'oppression sociale avec la question du vécu et de l'intimité individuelle. Comment on peut... Un langage qui associe ces contraintes avec le vécu individuel et l'intimité. Je prendrai simplement deux artistes différentes, deux femmes, Kenny Arcana, Kazé. Alors, le texte de... À chaque fois, je prends un texte simplement pour illustrer la façon dont c'est fait. Kenny Arcana est une rappeuse, donc marseillaise, altermondialiste. Donc son titre, c'est dans son album de 2006, s'appelle « Entre les lignes clouées au sol ». Pour Kenny Arcana, L'exploitation et la domination révèlent bien deux logiques sociales, deux contraintes sociales. Je me sens comme perdu au cœur d'une immense machine qui n'en a jamais eu et qui nous dénature. Il y a bien une logique de système, de contrainte, d'oppression et d'exploitation. Avec des traces sur l'individualité, mon âme est souffrante. Et les deux aspects, structure sociale et vécu individuel, sont entremêlés. On subit un monde qui nous dépasse et qui nous replie sur nous-mêmes en nous laissant des traces. Donc, l'expérience personnelle et collective apparaît alors tendue entre deux aspects, les contraintes du réel et les échappées utopiques. Les ailes brûlées, clouées au sol, la tête vers le ciel, vers la splendeur de l'éternel ailleurs. Et partant, l'émancipation, comme la contrainte, l'oppression a une dimension à la fois collective et individuelle, intime, l'émancipation appelle une composante individuelle et collective. En relation avec la composante collective, et la fin du texte de Kinyarkana se termine ainsi, car changer le monde commence par se changer soi-même. Car changer le monde commence par se changer soi-même. Donc, changer le monde, se changer soi-même. Bon. On prend un autre exemple qui est une autre rappeuse casée, un texte qui s'appelle Rêve illimité. C'est un album plus récent, 2010. Là aussi, on parle du vécu individuel, là, d'une jeune noire antillaise qui se constitue comme minoritaire dans une banlieue populaire, dans une cité populaire. Et là, toujours au croisement de discrimination sociale, donc de contraintes sociales, et puis d'aspiration d'une individualité singulière. Discrimination sociale, locataire d'une cité où les tours sont austères, mon histoire c'est d'y être noire, donc minoritaire. Et il y a la contrainte de la discrimination sociale, mais aussi la contrainte du genre, la division dominante entre les genres. Elle dit « J'ai un air androgyne, je suis l'exclu à la gueule masculine ». Il y a la division, il y a les discriminations sociales, la contrainte de genre qui pèse. Et en même temps, les effets globaux du capitalisme, la domination de la marchandisation, le crâne téléguidé par la thune. Et l'individualité singulière ici, et le temps ne va pas mater ma personnalité, il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Hein, la question de résister dans la personnalité. Et elle dit, même le manque de victoire forge mon caractère. Même le manque de victoire forge mon caractère. Donc on a là un élément intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a un type de langage qui existe et qui associe des contraintes de l'oppression sociale, des contraintes systémiques, on dira, avec des éléments du vécu singulier et de l'intimité. Et qu'on accroche les deux. Alors c'est ça que ne sait pas faire le langage politique et le langage militant. Donc, quand on dit il faudrait trouver un langage, c'est qu'il existe déjà des formes de ce langage dans d'autres sphères culturelles que la sphère proprement militante. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait être intéressant à regarder ce qui se fait ailleurs. Les militants ont souvent l'habitude de parler et ils devraient faire davantage preuve d'humilité quand il s'agit d'apprendre sur un terrain justement où on n'est pas très bon, ce terrain de la politisation de la question de l'intimité. Celui qui a bien saisi cette démarche un peu d'humilité, c'est au Chiapas, au Mexique, le sous-commandant Marcos. À un moment donné, quand il raconte son arrivée dans les visages du Chiapas, il dit « Il fallait chercher d'autres mots, apprendre à parler avec la population. » Il fallait chercher d'autres mots, apprendre à parler avec la population. Donc c'est bien un problème de langage aussi. Hein. Il ajoutait « Nous avons appris à écouter. Avant, on avait appris à parler comme toute la gauche. Donc, premier point, pour politiser cette question des intimités blessées, il faut inventer un langage. Bon, et on a des traces quand même sous des formes culturelles. Par exemple, le rap, c'est pas le seul. Hein. On pourrait prendre le cinéma, etc. Il y a des formes qui tiennent ensemble les dimensions des contraintes structurelles ou systémiques et les dimensions de l'individualité singulière. Mais pour politiser, il peut être intéressant d'avoir une philosophie politique, c'est-à-dire une conception alternative de la société. Comment on envisage la façon dont se jouent les rapports entre l'individualité et le collectif dans la cité. Et donc c'est mon deuxième temps de cette partie émancipation, c'est les articulations et les tensions entre bien commun et singularité individuelle à travers un philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas. Alors le parcours individuel que j'ai suivi avec Marx et Castel indique donc que nos singularités individuelles respectives sont composées de relations sociales. Donc en fait, l'individualité de chacun, sa unicité est en même temps composée de bouts de monde commun. C'est ça le paradoxe de l'approche relationnaliste de l'individualité. C'est que chacun d'entre nous est unique, mais en même temps, cette unicité, elle est fabriquée avec des bouts de relations avec les autres, donc des bouts de monde commun. Mais en même temps, et donc ça c'est l'articulation entre la singularité individuelle et le commun. En même temps, en tant que singulière, ces singularités sont incommensurables, irréductibles les unes par rapport aux autres, donc irréductibles au commun, puisqu'elles sont uniques. Donc c'est ça la difficulté de comprendre que ces individualités singulières sont à la fois en lien avec le commun, fabriquées avec du commun, et en même temps irréductibles au commun, incommensurables, bon, uniques. Bon. Et notre problème, c'est justement de voir comment on peut penser en même temps, ce qui peut paraître comme un paradoxe ou une tension, un enracinement de l'individualité de chacun dans le commun et l'irréductibilité de la singularité de chacun au commun. Et c'est là l'enjeu principal d'une émancipation à la fois individuelle et collective, bon, qui promouvrait à la fois les biens communs et les individualités contre la logique capitaliste. Alors, ça suppose au moins deux dimensions associées. D'abord, il faut consolider les articulations entre biens communs et singularité individuelle. C'est-à-dire que dans le combat contre la figure néolibérale de l'individu, l'individu qui serait autosuffisant et concurrentiel, bon, il faut insister sur la façon dont les relations sociales nous aident à fabriquer notre singularité. Souvent, on a une vision, dans la vision libérale et néolibérale, c'est que les autres, c'est une menace pour nous. Donc les relations avec les autres, c'est une menace, hein, qui menace notre fort intérieur, notre intimité, etc. Il faut davantage consolider ça en prenant davantage conscience de la façon dont les relations avec les autres, les relations sociales, enrichissent notre unicité, notre singularité. Bon. Et ça, c'est du côté de l'articulation entre bien commun et singularité. Mais, en deuxième temps, il faut admettre des tensions entre espace commun et singularité individuelle. Le fait qu'il y a quelque chose quand même d'irréductible à l'espace commun. Bon. Que l'unicité de chacun déborde tous les cadres collectifs. Bon. Et c'est ces deux dimensions qu'il faut essayer de prendre en compte. Alors, il y a un philosophe qui est peu connu dans les milieux politiques, parce qu'il est connu comme un philosophe de l'éthique, qui fournit des ressources pour aller dans ce sens, c'est Emmanuel Lévinas, un philosophe contemporain qui est mort en 1995. Lévinas se situe au carrefour de ces deux matières qu'il va utiliser. La phénoménologie, c'est un courant de la philosophie qui se développe au XXe siècle avec Husserl d'abord, mais beaucoup des grands philosophes du XXe siècle vont se référer à la phénoménologie comme Sartre, Merleau-Ponty, etc. Bon. Et la deuxième source, c'est le judaïsme, et Lévinas est un des grands commentateurs des textes juifs, et c'est ces deux sources pour construire sa philosophie du visage. Bon. Alors, Lévinas, il fournit une voie stimulante pour penser les tensions entre espace commun et singularité individuelle, justement. Il dit, il faut, dans un texte qui s'appelle Éthique et infini, c'est des entretiens de 1982, il dit, il faut comparer l'incomparable. Alors, c'est très intéressant, cette idée. Il faut comparer l'incomparable. Bon. Comparer, pourquoi ? Au sens politique, c'est-à-dire, il faut constituer un espace commun avec des critères communs pour répartir de manière plus juste les richesses. Mais pour ça, il faut un espace commun, avec des critères. Bon. Avec des institutions collectives, des services publics, des règles de répartition plus justes. Et ça suppose de comparer, ça, puisqu'il s'agit de mieux répartir. Mais l'incomparable, il faut comparer l'incomparable. L'incomparable, c'est quoi ? Ben, c'est justement la singularité de chacun. Le fait que chacun, en même temps, on doit le comparer, mais il est incomparable. Bon. Il est incomparable parce qu'il est unique. Cette figure de l'incomparable, elle est saisie par Lévinas, c'est le principal de sa philosophie, à travers ce qu'il appelle le visage d'autrui. Bon. Visage d'autrui. Et souvent, on va dire, assimiler Lévinas à une phénoménologie du visage, ou à une éthique du visage. Bon. Pourquoi le visage d'autrui est incomparable ? Parce que je ne pourrai jamais enserrer autrui, son visage, dans des catégories englobantes. Bon. En fait, pour Lévinas, je ne peux jamais complètement comprendre autrui. Comprendre au sens de l'englober totalement, et comprendre au sens de le connaître totalement. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement quelque chose qui échappe à mes prises totalisatrices. C'est sa singularité, son unicité, justement. C'est ce qui fait que, pour Lévinas, il ne peut pas y avoir de fusion entre deux personnes. Parce que fusion, ça suppose qu'il n'y a rien qui échappe, qu'on peut comprendre, donc englober complètement, et en même temps connaître totalement. Non, il y a ce qui fait la singularité, c'est qu'il y a quelque chose qui échappe. Bon. Par rapport aux prises totalisatrices, par rapport à cette idée qu'on peut comprendre et connaître. Bon. Un des grands livres de Lévinas s'appelle « Totalité et infini ». Donc il oppose l'idée d'infini à l'idée de totalité. Donc ce qui échappe, c'est l'unicité irréductible du visage d'autrui. Et on pourrait dire que la singularité du visage d'autrui, c'est un peu comme un petit trou dans la baignoire de l'être. J'ai l'habitude de dire que la pensée occidentale, celle que critique Lévinas, il considère que la pensée occidentale est marquée par cette notion de totalité, de tout, de Platon jusqu'à Heidegger en passant par Hegel. Donc elle est marquée par cette idée de totalité. Et donc on pourrait dire que la pensée occidentale, elle saisit l'être, ce qui est comme une baignoire dont on peut faire le tour, qui fait le tour de l'ensemble et que je peux tenir totalement. Et la grande nouveauté de Lévinas, c'est qu'il a montré qu'il y avait un petit trou dans la baignoire. Donc il y a une fuite, en fait. Bon. Et c'est ça la singularité d'autrui. Il y a quelque chose qui échappe. Bon. Donc la grande nouveauté par rapport à la tradition occidentale de Lévinas, c'est qu'il y a un petit trou dans la baignoire de l'être. Et donc, les singularités individuelles demeurent pour partie incomparables, donc débordent les notions communes. Ce faisant, Lévinas a commencé à pointer quelque chose comme la nécessaire et irréconciliable tension entre, d'une part, le caractère incommensurable de la singularité d'autrui, et d'autre part, l'espace commun de justice, donc un espace du commensurable, au contraire. Comparer l'incomparable. Certes, si on suit Castel, il y a une part d'articulation entre les deux, entre justice sociale et singularité individuelle, parce que les supports sociaux, ça aide à fabriquer la singularité individuelle, l'autonomie individuelle, mais en même temps, il y a une dimension incommensurable de la singularité individuelle. Se maintient donc quelque chose comme une tension irréductible entre les dispositifs collectifs de justice, les espaces communs et la singularité de chacun. C'est ça, comparer l'incomparable. Et ce comparer l'incomparable, c'est une tension infinie, on ne résout pas la contradiction. Ça sera toujours contradictoire, tendu de comparer l'incomparable. Donc ce n'est pas une synthèse, ce n'est pas une harmonie entre les deux. Pour moi, Lévinas est le penseur qui nourrit ce que j'appelle, comme projet de philosophie politique, social-démocratie libertaire. Social-démocratie au sens de créer des dispositifs de justice sociale et d'espace commun. Libertaire, justement, au nom d'une pensée de la singularité individuelle. De cette tension entre les deux, disons, d'une certaine façon, entre la tradition social-démocrate au sens large, depuis le 19e siècle, fin du 19e, et puis la tradition anarchiste, d'une certaine façon. Donc, un premier pas pour nourrir cette philosophie politique alternative qui permette de politiser autrement la question de l'individualité. Un deuxième et dernier pas, c'est d'approfondir un peu cette question de la construction de la singularité individuelle, le pôle de la singularité individuelle. C'est mon dernier point, ce que j'appelle créer les conditions collectives du bricolage de soi. Alors, on verra pourquoi je parle de bricolage de soi alors que beaucoup, comme mon ami Michel Onfray, parle de sculpture de soi et pourquoi j'utilise le mot bricolage plutôt que sculpture. Bon. Si on veut travailler ce pôle de la singularité individuelle, de la construction de la singularité individuelle, il y a toute une tradition qui existe autour de la construction de soi. Et cette tradition de la construction de soi, elle peut faire des liens étranges, paradoxaux, inhabituels, que ne font pas par exemple les marxistes, entre d'une part Marx, mais aussi Oscar Wilde et Michel Foucault. Bon. En fait, on peut dire que c'est Oscar Wilde qui pourrait faire la médiation entre Michel Foucault et Marx. Donc c'est aussi le thème de ce que Michel Onfray appelle la sculpture de soi, c'est la même famille de problèmes. Bon. Alors d'abord, Marx, pour préciser un peu ce que j'ai dit, hein, l'homme total ou l'homme complet, il donne peu de caractérisation de ce que pourrait être la société future. Marx, il y a quelques notations par-ci par-là, et donc il y a une notation dans le livre qu'il écrit avec Engels qui s'appelle « L'idéologie allemande », qui est un livre qui n'est pas publié de leur vivant et qui date de 1845-1846. Et voilà cette figure idéale de l'homme complet, comment il la définit. Dans la société communiste, personne n'est enfermé dans un cercle exclusif d'activité. Dans la société communiste, personne n'est enfermé dans un cercle exclusif d'activité. C'est-à-dire, personne n'est rivé à un type d'activité particulier, va pas être simplement plombier toute sa vie. Il n'est pas rivé à une forme d'activité. Ce qui me permet ainsi de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de me couper d'élevage le soir, et de m'adonner à la critique après le repas. La critique pour Marx, c'est la philosophie. Bon. Donc je peux chasser le matin, pêcher l'après-midi, m'occuper d'élevage le soir, m'adonner à la philosophie. selon que j'ai envie, selon que j'ai envie, sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou critique. Sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou critique. Sans être un chasseur professionnel qui ne fait que ça, sans être un pêcheur professionnel qui fait de ça, sans être un berger professionnel qui fait de ça, ou sans être un philosophe professionnel qui fait de ça. Donc d'une certaine façon, en pouvant être toutes ces dimensions à la fois, sans être rivé à une forme d'activité, chasseur, pêcheur, berger ou philosophe. C'est ce que ça que Marx appelle l'homme complet ou l'homme total. Chez lui, ça réunit, on pourrait dire, des figures existantes, c'est-à-dire la figure ouvrière de l'artisan, plutôt l'artisan que de l'ouvrier d'usine. C'est-à-dire qu'une des analyses que Marx fait du capitalisme, c'est que le capitalisme développe beaucoup plus de moyens collectifs pour l'humanité par rapport à la société, disons, d'ancien régime. Donc au niveau collectif, le capitalisme développe beaucoup plus de possibilités, de forces sociales productives, comme il dit, mais avec une régression au niveau individuel. C'est-à-dire par rapport à l'artisanat antérieur, c'est une régression le capitalisme, parce que l'individu avait davantage de capacités à sa disposition. Donc cet homme complet, il figure la figure ouvrière de l'artisan, la figure de l'artiste, et la figure du philosophe savant, c'est-à-dire tout le monde peut être à la fois artisan, artiste et philosophe savant, d'une certaine façon, en n'étant pas soumis à une spécialisation réductrice. Donc Marx insiste sur le caractère potentiellement pluridimensionnel, à plusieurs dimensions des individus, qui vont développer une variété de capacités créatrices et de sens, contre un individu spécialisé, étriqué, marchandisé, qui est celui du capitalisme. C'est ce qu'un théoricien critique des années 60, Herbert Marcuse, appellera l'homme unidimensionnel. L'homme unidimensionnel, c'est celui du capitalisme. Justement, l'homme multidimensionnel, c'est celui qui est émancipé. Ce n'est pas sans rapport avec justement des préoccupations de Michel Foucault à la fin de sa vie. Dans les années 80, il meurt en 1984, par exemple, en 83, il lance une piste sous forme de question intéressante. Mais la vie de tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d'art ? Mais la vie de tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d'art ? Donc chacun pouvant devenir pour lui-même une œuvre d'art. Alors, une médiation possible entre cette finalité de la société qui serait de se construire chacun comme œuvre d'art et l'homme complet ou l'homme total de Marx, c'est une médiation inconnue aussi, c'est celle d'un écrivain britannique, un des apôtres du dandysme, Oscar Wilde, auteur notamment du portrait de Dorian Gray, emprisonné vers la fin de sa vie pour son homosexualité en Grande-Bretagne, et d'ailleurs qui finira sa vie dans la pauvreté, il va se réfugier en France, et c'est pour ça qu'il est enterré au Père Lachaise aujourd'hui. Et sa tombe est devenue d'ailleurs une sorte de lieu d'icône des milieux gays, et c'est une des tombes les plus graffitées du Père Lachaise. Bon. Oscar Wilde écrit un petit essai en 1891 qui s'appelle « L'âme humaine sous le socialisme ». Alors, c'est peu connu le caractère socialiste d'Oscar Wilde, hein. En fait que c'est un dandysme socialiste. Bon. « L'âme humaine sous le socialisme », 1891, c'est réédité sous le titre aujourd'hui en France « L'âme humaine » simplement. Bon, le titre en français aujourd'hui, « L'âme humaine », sans doute que le socialisme c'est moins vendeur aujourd'hui, donc on a gardé que « L'âme humaine ». Bon. Wilde, d'ailleurs, en dehors de ce texte, est un des premiers à avoir utilisé dans un autre texte la figure de la construction de soi comme œuvre d'art. Hein. Alors, Foucault ne cite pas Oscar Wilde, mais Didier Héribon, dans ses réflexions sur la question gay, une grande partie de ce livre est basée sur les liens des thématiques d'Oscar Wilde et de Michel Foucault. Wilde donc écrit dans cette âme humaine sous le socialisme, le socialisme en convertissant la propriété privée en prospérité publique, en remplaçant la compétition par la coopération, fondera la vie sur un environnement approprié, mais pour que la vie se développe jusqu'à son plus haut degré de perfection, il faut quelque chose de plus, et c'est l'individualisme. Donc, le socialisme, c'est une condition nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prospérité publique et pas simplement privée, et on substitue à l'individualisme de la compétition, l'individualisme de la coopération. Donc c'est deux formes d'individualisme différentes, hein, en remplaçant la compétition par la coopération. Mais pour que la vie se développe, il dit, il faut ajouter quelque chose de plus, c'est l'individualisme. Donc une alliance du socialisme et de l'individualisme, mais un individualisme de la coopération contre l'individualisme de la concurrence. Et il va préciser en sens, ce qu'il appelle par là, en convergeant avec Marx, puisqu'il va reprendre justement le couple être-avoir qu'on a déjà vu chez Marx. Bon. Alors, je cite un long passage d'Oscar Wilde. « La reconnaissance de la propriété privée a vraiment nui à l'individualisme, l'a obscurcie en confondant l'homme avec ce qu'il possède. » Alors, c'est très intéressant parce que dit la propriété privée, la propriété capitaliste, c'est ce qui nuit à l'individualisme. Hein. Souvent, on va associer ça à l'individualisme. La reconnaissance de la propriété privée a vraiment nui à l'individualisme, l'a obscurcie. Pourquoi ? En confondant l'homme avec ce qu'il possède. Lui a assigné pour objectif le gain, non l'élévation de soi. Développer le gain, donc la propriété privée, le gain, non l'élévation de soi. L'homme a cru qu'il importait d'avoir, ignorant qu'il importe d'être. L'homme a cru qu'il importait d'avoir, ignorant qu'il importe d'être. La véritable perfection de l'homme réside non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. La véritable perfection de l'homme réside dans ce qu'il réside non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. La propriété privée a broyé l'individualisme véridique, a broyé l'individualisme véridique pour en ériger un faux. Pour en ériger un faux. Elle a empêché l'individualisme d'une partie de la communauté en l'affamant, la détournant sur de mauvais chemins, en l'étouffant. Donc, premier élément, la propriété privée a orienté les individus vers l'avoir au détriment de l'être. L'avoir, c'est la propriété, c'est le gain. C'est le capitalisme. L'être, c'est le domaine privilégié justement de la sculpture de soi. Ce que Wilde appelle dans son texte aussi le plan de l'imagination artistique, le plan du beau. Ce que Marx appelle aussi l'homme complet. Et par ailleurs, la propriété privée est à l'origine d'inégalités sociales, qui empêchent une majorité d'êtres humains d'accéder à l'autonomie et à la créativité individuelle. Donc c'est le deuxième élément de l'argument d'Oscar Wilde, les inégalités. Or, l'individualisme d'Oscar Wilde, comme l'individualisme de Marx, est un individualisme pour tous. C'est un individualisme démocratique. Alors que l'individualisme capitaliste, l'individualisme néolibéral, est un individualisme pour quelques-uns dans la compétition, c'est-à-dire c'est ceux qui réussissent la compétition. Donc l'individualisme d'Oscar Wilde et de Marx sont des individualismes élargis, en fait, pour l'ensemble des individus. Alors que l'individualisme néolibéral, c'est ceux qui réussissent la compétition, bon, et donc pour quelques-uns. Donc, ça suppose la constitution de conditions sociales à la sculpture de soi. Hein? Donc, notamment la rupture avec la propriété privée et le développement de la prospérité publique, comme dit Oscar Wilde. Conditions sociales sur lesquelles Marx s'est davantage penché que quelqu'un comme Foucault. Ainsi, il y a une phrase très intéressante dans l'idéologie allemande de Marx et Engels, où ils envisagent le lien entre transformation de soi et conditions sociales plus larges. Je cite Marx et Engels, « Dans l'activité révolutionnaire, la transformation de soi-même coïncide avec la transformation des circonstances extérieures. Dans l'activité révolutionnaire, la transformation de soi-même coïncide avec la transformation des circonstances extérieures. » C'est-à-dire que Marx pose bien la question de la transformation de soi, il le dit. Hein, la transformation de soi-même. Hein. Contrairement à ce que disent souvent les marxistes, où la question de la transformation de soi ne serait pas une question marxiste. Si, c'est une question de Marx. Mais elle est faites en lien, associé à des transformations collectives des structures sociales existantes. La transformation de soi, la transformation des structures collectives. Et c'est important à noter parce que, moi, quand j'ai commencé à militer au lycée à la fin des années 70, quand on allait au lycée, je le raconte souvent, il fallait choisir, on choisissait, quand on s'intéressait aux choses, on choisissait soit marxisme, soit bouddhisme. Alors moi, j'ai choisi marxiste. Et donc j'étais du côté des transformations collectives, de l'action collective, etc. Et ça supposait que la transformation de soi, ce n'était pas une bonne chose. Et ceux qui choisissaient bouddhisme, ils choisissaient la transformation de soi, mais pas la transformation collective. Parce qu'il y avait l'idée que c'était deux choses opposées, on choisissait l'un ou l'autre. En fait, Marx pose les deux problèmes en même temps. Bon. Alors, par rapport à cette idée des conditions sociales de la transformation de soi, on peut ajouter un élément d'interrogation. Et là, j'utiliserai une question qu'on peut tirer notamment d'un autre auteur qui est Pierre Bourdieu, la sociologie critique de Bourdieu. Et ça va avoir référence à ce qu'on appelle en sciences sociales l'ethnocentrisme. Ethno, groupe humain, centrisme, se centrer sur son groupe humain. Par exemple, l'ethnocentrisme, c'est de considérer que nous, en Occident, on est les civilisés et que donc ailleurs, c'est les barbares. Bon, c'est typiquement l'ethnocentrisme. C'est-à-dire analyser les autres groupes humains avec les critères de son propre groupe, avec une hiérarchie. Et puis, il y a, ça c'est Lévi-Strauss qui l'a analysé le premier, dans Race et Histoire, Mais les sociologues ont élargi cette notion à ce qu'ils appellent l'ethnocentrisme social ou ethnocentrisme de classe. C'est-à-dire, je prends, dans une même société, dans une même civilisation, je vais prendre les critères de ma propre classe d'appartenance pour juger les autres. Par exemple, c'est les descriptions classiques des ouvriers, des paysans, comme des bœufs, des animaux. Et c'est même une série de caricatures, les beaufs, les déchiens, les bidochons, etc. C'est-à-dire que, quand on est dans des secteurs plus intellectualisés, c'est l'idée que les autres groupes sociaux sont des sous-humains, d'une certaine façon, sans culture, etc., hein, que c'est des bœufs. Bon. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'ethnocentrisme de classe ou l'ethnocentrisme social. Hein. C'est une autre façon d'avoir la catégorie barbare civilisée, mais à l'intérieur d'une même société, bon, en posant une hiérarchie. Alors, justement, pourquoi ça a à voir avec l'ethnocentrisme social ou l'ethnocentrisme de classe? Les questions qu'on a abordées jusqu'à présent, mais parce que justement, quand on dit de sculpture de soi ou se constituer comme œuvre d'art, on utilise les mots œuvre d'art et sculpture. Bon. Alors, ce n'est pas des mots complètement neutres, justement, du point de vue social. Pourquoi? Parce que ça fait signe du côté de ce que Bourdieu appelle le capital culturel. Alors, c'est quoi le capital culturel? Le capital culturel, c'est les ressources culturelles légitimes. Ce n'est pas tout ce qu'il y a de culturel dans une société, mais c'est les formes culturelles qui sont légitimes et qui sont appropriées par les groupes sociaux dominants dans une hiérarchie culturelle, hein, avec des formes culturelles plus élevées que d'autres. Bon. Par exemple, aller souvent au musée et à l'opéra, c'est enrichir son capital culturel, donc ça fait partie du capital culturel. Par contre, être très bon à la pétanque, c'est pas très bon pour le capital culturel, c'est pas reconnu. Bon. Vous voyez bien la différence. Bon. Pourtant, la pétanque, ça peut être une tradition aussi culturelle, etc., mais ça ne fait pas partie. Donc il y a une hiérarchie. Donc, parler d'œuvres d'art et de sculpture, c'est faire signe du côté, justement, de ressources culturelles légitimes qui sont dans une hiérarchie culturelle. Bon. Et donc, il peut y avoir une certaine pente à l'ethnocentrisme de classe, à l'ethnocentrisme social, à valoriser les figures exclusivement, à valoriser, je dirais, exclusivement, les figures de l'œuvre d'art et de la sculpture dans l'émancipation plutôt que d'autres figures sociales. Donc, des figures qui sont socialement marquées par la hiérarchie du capital culturel. Je propose alors, c'est pour ça que je propose la différence de Onfray, je propose que le vocabulaire de la construction de soi change de tonalité sociale en passant du thème de la sculpture de soi ou de la construction de soi comme œuvre d'art au thème du bricolage de soi. Bon, bricolage de soi. Alors pourquoi bricolage de soi et pourquoi ça a à voir avec la critique de l'ethnocentrisme social? Ben, justement, dans le bricolage de soi, il pourrait y avoir de l'œuvre d'art, de la sculpture, mais ça peut être associé à des petits gestes plus humblement quotidiens pour se construire une dignité qui ne passe pas par les formes élevées de l'art ou de la sculpture. Bon. Et donc, c'est pour faire vivre un dandysme beaucoup plus polyfolique socialement, qui peut se développer dans différentes dimensions, beaucoup plus démocratique d'une certaine façon. Bref, la construction de soi se déploierait sur le terrain du musée de l'opéra, mais aussi des universités populaires, mais aussi du bricolage, proprement dit, du jardinage, des savoir-faire culinaires, ethnologiques, la convivialité des fanfares populaires, etc., etc. Donc une variété de terrains et pas simplement ce qu'on appelle œuvre d'art ou sculpture. Voilà. Si j'ai utilisé ce mot, que j'ai substitué ce mot il y a quelque temps, c'est en réfléchissant à mon grand-père qui était ouvrier, qui avait un petit atelier dans son HLM en Gironde, et où le soir ou le week-end, il inventait des objets assez étranges. Par exemple, il avait inventé un appareil à découper les oursins. Mais en inventant des objets étranges dans ce travail manuel, dévalorisé sous les formes culturelles, il s'inventait lui-même. C'était une façon de se construire lui-même. Voilà. Et donc, c'est ça le bricolage de soi. C'est pas simplement l'œuvre d'art et la sculpture, c'est la variété de ces activités. Bon. Voilà à peu près ce que je voulais présenter, j'ai un peu débordé, lors de cette première séance, une série de pistes, on pourrait dire libertaires d'une certaine façon, pour redéfinir ces deux logiciels que sont le logiciel de la critique sociale et le logiciel de l'émancipation à travers cet angle qui est l'angle de l'individu. Voilà, merci.